my day, Christmas Hill. On l'a fait pas, you know. Non, travail, ça nous va faire avec nous. 8h du soir, c'est un bâton de la caille. Un bâton de la caille, oui. Et voilà. C'est Christmas Hill. C'est soigné. Vous jouez avec les plaisirs, vous chantez. DJ Rosier. Et puis, travail dans le tombeau, c'est travail mal. Garrett Papillon. Et nous avons un texte ici. Il y a une nouvelle unité de délivrance, une nouvelle qui est le crime royal. La dame de l'intention. Il est. Baraka, en français, Baraka, un jour, rose violet, se levait sur la cité soleil. Un coq, après plusieurs battements d'ailes, s'est bousillé à chanter d'une voix de ferraille qui lui sortait à peine de la gorge. Délia, jamais, debout, malgré l'heure matinale, assistait avec un état d'âme particulier au réveil de l'astre divine dont son caressier porte le nom. Son regard lui prenait la lune dans le blanc de la fenêtre de sa massure. Elle jetait un coup d'œil critique sur ce bidonville qu'il avait vu naître. Et contrairement à ses camarades de fortune, elle ne s'était jamais résignée à vivre là, entre guillemets. Et ce qu'elle avait, quoi, une redoute idée du bonheur. Délia, elle voulait faire croire, elle voulait changer d'horizon, croire plus légitime que ça. Elle en avait marre de l'anarchie, de la corruption, de la délinquance et de la promiscuité qui sévissait dans ce quartier populaire. Elle ne devait maintenant que d'être très loin de celui-ci, le plus loin possible de l'enfer des gangs. Et ses lamentations à ce sujet étaient quoi? Parvenues, il semble, à Papa Bondié. Et ce dernier, contrairement à ses habitudes, lui avait enfin donné signe de vie. Il savait, lui, le notre père qui est aux cieux, que ce n'était pas le meilleur endroit pour élever les enfants des gosses sans pire, ou plutôt d'un paternel éternel absent du surcroît, et de surcroît, il faut dire. Elle était au courant aussi qu'écouler les avanceurs au détail au marché en fer ne l'amènerait nulle part. Et oui, Delia, il y aurait bien des réponses aux questions et aux choses existentielles. Mais ce qui était évident depuis la veille, c'est qu'elle avait été choisie par le Très-Haut pour sortir du lot. Là, elle était une élue, sans rien avoir cherché ni sollicité. Elle qui avait quoi, toujours refusé de jouer à la borlette parce qu'elle n'y croyait pas. Toutes ses connaissances qui fonçaient tête baissée dans ce jeu de hasard ne tirait que quelques sous à peine, capable de payer le prix de la petite marmite de riz qui se vendait tête maigre. Et surtout à cause du fait qu'elle avait vu son père s'adonner à cette passion au prix du bien-être familial avait raflé la cagnotte. En effet, une somme faramineuse sortant du ciel de toute évidence lui était subitement tombée dans les bras. Au loin, se fit entendre l'échappement furieux de Chalosta, le chien de Madame Séraphin plutôt, qui ne se laissait jamais de courir après de bécanes et de motocyclettes. Delia se demandait, maigre comme il était, comment il pouvait encore prétendre défendre un quelconque territoire. Qui pouvait le craindre dans l'état lamentable dans lequel il se trouvait? De plus, une automobile lui vite passé dessus, rendant folle l'une de ses pattes arrière. Un cabou qui mangeait parfois, pouvait-il avoir la prétention d'être capable de soumettre la terreur? C'était de la présomption de sa part. Tout bonnement, pauvre Chaloska, les gosses du quartier, au sortir de l'école, passaient leur temps à l'agacer en lui lançant des pierres et quoi, et en chantant « Madigam Bape, où c'est mon noyé, Madigam Bape, où c'est mon noyé ?» Il leur courait après jusqu'à l'essoufflement. Madame Séraphin devait alors montrer des dents pour qu'on lui foute la paix. Les rôles étaient quoi? Les rôles étaient donc inversés. Elle entendait de manière de plus en plus distincte la voix du prédicateur. Ça n'a encore Dieu fort. Preuve que celui-ci approchait à vive allure. Ah, il pouvait y avoir de rage dans l'air. Mackensen Gerrier, son voisin, dont la maison était contiguë à la sienne, qui détestait être réveillé par ce tintamarre de la parole et du Dieu, allait certainement en décharger sa carabine. Ça n'a cœur Dieu fort, dès les premières lueurs de l'aube, arpentait le quartier pour prêcher la bonne nouvelle de la venue prochaine du royaume de l'Éternel. Cette fois-ci, c'était la bonne, tant il lui semblait que l'immoralité battait son plein dans le monde. Il disait être dans le sein des saints. Pour le Saint des Saints, une seule raison pour l'avoir, il pouvait revenir cette fin imminente tout en ayant chance. Il fallait du courage pour se donner en spectacle de la sorte. À la fin des fins, c'est Macandal, le plus aimé du coin, qui, pour avoir sa paix, lui faisait don d'un plat de lentilles, de riz et poids, pour apaiser sa fringale, de nourriture terrestre. Était-ce une technique de pointe, une nouvelle manière de quémander le pain quotidien? En tout cas, ceux qui n'avaient pas la conscience tranquille se dépêchaient de la satisfaire, achetaient son silence, payaient cher leur beau esprit. Personne ne voulait s'attirer les foules du Très-Haut. Maintenant, la voix du prédicateur faisait un scandale de tous les diables. Les effluves matinaux de la mer lui parvenaient de façon irrégulière, selon les caprices du vent, et elles se mêlaient aux senteurs de cuir bleu de Goldenberg. Le cordonnier expert en modèle de sandales à Jésus-Christ. Il avait offert son produit au prêcheur qui était tout à fait la personne indiquée pour le porter. Ce dernier pourtant avait accueilli son offre avec un dédain préférant une paire de tennis en Jordan Air, une chaussure pépette venue d'un boulot de Miami. Déjà le manteau de Goldenberg tapait sur le cuir rebelle, le plus gagite. Il lui fallait se réveiller tôt le matin pour assurer les 200 piastres de la journée. Elle détestait par-dessus toute cette odeur de cette quoi. Par-dessus toute cette odeur de quoi, de colle forte qui émanait de chez lui. Olga et Siègle, la femme de Goldenberg, s'était convertie au catholicisme, car chaque nuit, un partage infernal se faisait sur son toit en tôle. Et elle disait que c'était la manifestation de loup-garou qui tenait à lui ravir ses enfants. Les soirs de pleine lune, surtout, on entendait ses prières s'élever vers le ciel pour ne trouver leur amen qu'au petit déjeuner. Et qu'au petit jour plutôt, il était arrivé quelque chose de terrible à sa sœur Modula. Voilà l'histoire que raconta Olga. finance prospère et sa charmante épouse, Modula Monessime, avait été passée quelques jours de vacances dans la petite de la ville de X située dans la Grandance avec leurs trois gosses. Cette localité avait vu naître Finance et puis pourtant ce dernier s'y rendait rarement parce que, à son avis, des choses bizarres si tramaient. Les gens de la région avaient la réputation d'être des loups-garous qui violaient la vie des jeunes enfants, volaient la vie des jeunes enfants plutôt. Mais que voulez-vous, il fallait bien qu'il aille visiter sa vieille maman de temps en temps. À peine a-t-il vécu deux jours que le Benjamin Pascal se trouva mal. Un accès de fièvre soudain qui a levé l'air de nous prendre sa source nulle part. Tu n'asseras un mauvais coup provenant très certainement, diront des docteurs, la voisine limitrophe de sa mère, que la ville entière soupçonnait d'appartenir à une société secrète du nom des Obopas. Depuis leur arrivée, ils avaient constaté la présence de trois chouettes des frisés dans le langage haïtien de couleur sombre qui logeait dans l'arbre qui s'élevait devant la fenêtre de la chambre où donnait la petite. Tout ceci n'était pas normal. Que venait faire brusquement cette bête dans cette demeure au moment où des enfants y séjournaient? Ils avaient fait appeler le docteur. Hélas, ce dernier, après avoir observé l'absence de toute infection, ne vit que du feu dans toute cette affaire de carabiné. Il prescrivit le docteur quand même des antibiotiques. Ceci, les antibiotiques, plus de 24 heures plus tard, s'avéraient de nulle effet. Force fut pour Finance de constater que cette maladie subite, sortie de nulle part, ne survivait pas grâce à l'efficacité de la médecine hippocratique, car un autre, un cœur croisé de mauvais humeur, était en train d'opérer. Une rondelle, semble-t-il, était passée par là. La fièvre persistait depuis 48 heures. Persuadé qu'une inaction de sa part pourrait être fatale à la progéniture, Finance Prospère ramassa ses clics et ses claques, sa petite famille, et s'en alla sans regret de ce blé de maudit. Cela lui avait bien pris 8 heures pour se rendre chez lui à la capitale. En cours de route, l'hyperthermie de Pastiana commence par le miracle. Il était tombé aussi soudainement que celui-ci s'était manifesté. Finance croyait maintenant à l'abri de tout maléfice. Ouais. Mais au grand étonnement de notre homme, arrivé à destination, sa servante l'accueillit en lui annonçant qu'une dame du nom d'Hirondelle Docteur voulait tout juste lui apporter un cabri noir tacheté de blanc et une igname grosse comme un enfant de 3 ans, l'âge de Pastiana. Dans les yeux de Finance lui sortirent presque de la tête. Il croyait rêver. Qu'est-ce que cela pouvait vouloir dire? Il avait laissé cette vieille sur une doudine devant sa porte dans la ville de X. Comment avait-elle, à plus de 75 ans, sans véhicule motorisé, pu atteindre Port-au-Prince avant lui? Le corps tout entier, et pas vrai, tremblait fortement. Finance déclara à Modula, cette femme est le diable en personne. Il faut se débarrasser tout de suite de l'encombre en cadeau qu'elle nous a offert. Elle est déterminée à nous ravir notre enfant. Eh bien, cela ne se passera pas comme elle le voudrait. Et la fièvre de Pastiana refit surface. Il pria son garçon de cour d'attacher au cou du cabri la laisse rouge du pitbull de la maison et de le traîner de force vers la voiture. Tous les deux, ils embarquèrent l'igname et les chevaux dans l'auto et allèrent jeter très loin de Pastiana dans une décharge publique. Ils rentrèrent tout à fait soulagés, surprise du cabri noir tacheté de blanc, portant toujours la laisse du chien, les attendaient en bêlant devant la barrière. une frousse sans pareil s'était emparée des deux compères. Ils se demandaient comment Iringuelle pouvait-elle accomplir une telle prouesse. Cela tenait carrément de la haute magie. Ils embarquèrent à nouveau le bico et s'empressèrent d'aller le balancer cette fois-ci à la mer du côté du Wharf au Bicentenaire, là où l'eau était la plus profonde. Au retour, Finance prit la précaution de nous rouler très vite en évitant d'emprunter une ligne droite au cas où l'animal les aurait suivis. Il zigzaga comme un fou, s'engagea dans des rues transversales, comme dans des pendules, dans des perpendiculaires dans l'histoire de pouvoir semer tout individu ayant eu la vérité de le prendre en filature. Mais le perdu, le biquet les attendait encore devant leur porte. En désespoir de cause, Finance fit appeler à un grand mage de ses commandes. Et il fait appel plutôt à un grand mage de ses connaissances pour régler le problème. Un véritable imbriglio. Et de longtemps, prononça une très longue incantation en fixant l'animal qui ne cessait de bêler droit dans les yeux. Et tout à coup, une pluie violente se mit à tomber. Une eau impétueuse envahit toute la rue. Le antique torrent, l'expert en désenvoûtement s'empara alors du quadrupède, lui expédia avec une force et une violence inouïe. Et on nous plus jamais à s'inquiéter pour la forme de Fasciana. Repos. Depuis ce jour, Elba Espiègle avait une peau bleue de tous les tableaux rencontrés sur sa route. Une espièglerie inventée par la vie pour nuire à la santé mentale. Amen. Ce bruit d'eau et cette odeur de savon de Marseille, c'était Tosana qui préparait ses enfants pour l'école. La petite dernière pleurait. Pleurnichait plutôt continuellement pendant l'opération. Le détergent qui piquant toujours les yeux jusqu'à l'irritation. Frère, pensez en Dieu, je crois, le fils du pasteur était en train d'ouvrir son commerce. Quel nom pompeux pour un petit business, une partie, il vendait un peu de tout, des piles vartas, des fils barbelés, des compteurs volés aux rares abonnés de la zone de la compagnie d'électricité, des nœuds usés et déparés de voitures, du fil à dégâturer et quelques tuyaux de PVC. Son magasin ne faisait que 2 mètres sur 2. Manique, la marchande et la cassante était immédiatement fidèle au poste. Ses clients, les ouvriers qui donnent une factory située sur la route de l'aéroport, qui partaient pour le travail au petit matin pour être certains de trouver une place dans un tata. Panfil de son côté avait ouvert sa porte branlante et mis à la rue sa pharmacie ambulante. Il vendait des analgésiques, des graines pour la tête et douleurs, des effervescents contre la grippe, de la vitamine contre la malnutrition et des antibiotiques pour combattre les infections. La plupart du temps, des articles périmés que lui refilait à bon marché un agent du produit pharmaceutique de la rue du quai. Le soir, muni d'un bout de coton imbibé de tinère avec un puissant dissolvant, il faisait quoi? Disparaître les dates d'expiration. Les recommandations sur ces marchandises tenir à l'abri du soleil à une température n'excédant pas 26 degrés. Lui, il est trimballé par une canicule meurtrière. Il s'en foutait. Il arpentait la route sur ramasse et le banchier de la croix de Boussala à longueur de journée, jugeant que la consommation de ses articles était de la responsabilité de ses clients. Il adoptait sans réfléchir la manière de penser de son fournisseur qui, lui, sans vergogne, répétait à qui veut l'entendre, je vous remercie le ciel de m'avoir permis de mettre dans un pays où vit une population composée de 90% d'analphabètes et que je peux exploiter. Une horreur! Et bien voilà, on a fait rappeler là, pas vrai? Et on n'a pas fait c'est un bâton de la caille, on n'a pas fait qu'on joue 8h du soir, donc c'est non, qui peut nous proposer ça là? Nous prenons l'île en crime royal, c'est une série de nouvelles, et si vous voulez une nouvelle, et vous avez Marvel Papillon, le théâtre là, donc ma petite musique avec Chris Basile, qui a interprété la musique. Et Didier Rosier, pour accompagner nous, non, et continuer, vous avez fait ça, on a fait sous littérature. On n'a pas voulu retourner avec Ress, Baraka, Napidou, non, et Noyal, on a les papiers. Donc tout ça, et puis Marlène a continué, et puis il dit donc ça, mais oui, Delia, il dit que je remercie le ciel de m'avoir permis de mettre dans un pays où vit une population, quoi, composée de 90% d'analphabètes que je peux exploiter. Horreur, Delia avait vu passer sans sa manqueur du fort un homme que tout le monde, je crois, tout le monde créait dans la cité quand il était propriétaire de l'usine de l'unique service de pompe funèbre du coin. On disait qu'il avait engagé un courtier pour lui trouver des clients. Alors, les éventuels clients le fuyaient comme la peste. Il n'était pas preneur. Tout son environnement immédiat baignait dans la débrouillardise. Un combat à mort contre la mort lente. Et c'est d'abord ce milieu qu'elle souhaitait divorcer Delia. Hier, cela avait été sa chance. Elle avait été, comme d'habitude, s'approvisionner en avançant chez le Syrien du coin pour les besoins de son commerce. Et quand elle avait un procédé à l'ouverture du caisson en bois, une surprise de taille l'attendait. Une surprise de taille l'attendait. En effet, ça prise par le lot, par le plus curieux des hasards, ne contenait rien de ce poisson à deux bleus, à deux verres et à ventre argenté. Le banc des trois cailles, semble-t-il, avait foutu le camp et avait laissé derrière lui seulement l'argent de son abdomen, car il n'y avait que des dollars verts dans le conteneur, des centaines de milliers de dollars. Sa commère, Francia, qui était à proximité d'elle au moment du déballage, en resta baba de saisissement et poussa de gros cris qui alertèrent tout le marché. Après, ce fut la bagaille, tout le monde parlait en même temps et donnait a dit, il y a une foule de conseils, les uns plus absurdes que les autres. Francia et deux autres détaillantes comptèrent l'argent et trouvèrent la redoublette somme de 300 000 dollars américains. 300 000 dollars américains. Il y eut quoi? Un grand nombre de discussions et de commentaires concernant la provenance de ce pactole. Et la superstition s'installa. La petite foule avait très peur de cette fortune tombée du ciel. Celle-ci ne pouvait être que maléfique et provenir du malin lui-même qui voulait avoir en échange de vies humaines. Une femme raconta que l'histoire du genre avait été vécue par une marchande de la Guadeloupe et en moins de deux semaines, sa famille entière était à six pieds sous terre. Il fut conseillé à Delia de restituer les billets de banque aux Syriens qui certainement devaient posséder un baka à l'intérieur de son établissement pour lui garantir de bonnes affaires sous peine d'être victime d'une multitude de déboires aussi. Et puis celle qui avait compté la coupure paniquait et se dépêchait d'aller se laver les mains avec l'impression que la malédiction, quoi, et c'était déjà peut-être projeté dans tout leur tour. De toute évidence, pour les gens du groupe, un argent sans maître flânant à portée de tous ne pouvait être que diabolique. Delia, de son côté, réfléchissait à la vitesse de l'éclair. Elle ne partageait pas la vie de ses commères. Pour gagner du temps, elle fit semblant d'agréer à leur vie car il n'était pas question pour elle de rembourser quoi que ce soit. Dieu lui avait fait un cadeau et d'autres voulaient octroyer la paternité de ce geste généreux assurant à son ennemi Lucifer. Une aberration. Elle était seule contre tous et il valait mieux pour le moment jouer les autres. La sauce risquait de coûter plus cher que le poisson. Il fut décidé qu'au moins six d'entre elles l'accompagneraient chez le grossiste afin d'assurer la restitution du trésor. C'est vrai que la demi-douzaine de bonnes femmes l'avaient vu rentrer dans le magasin d'Abdoub Saoud. C'est aussi véridique que lorsqu'elle en était ressortie, après un temps plus ou moins long, elle avait les mains vides. Elle leur avait éclairé sa fête. J'ai tout remis, le diable n'obtiendra rien de nous. Il laissera nos enfants tranquilles. Un vif soulagement avait accueilli ses propres plus que l'initiant. Et c'est dans un harmonieux mouvement de rotation de leurs jupes irasées et fleuries, une ondulation à une autre pareille, que ces dames s'en retournèrent à leurs occupations coutumières. Delia, pour ne pas éveiller leurs soupçons, dut se résigner à faire comme si de rien n'était, la journée entière avec de la poussière plein les yeux et l'ardent soleil des Caraïbes au milieu du crâne. Et surtout, avec une angoisse nouvelle logée tout au fond d'elle-même, s'inquiétant à n'en plus finir de son argent. Le boulot terminé, enfin, elle gagna cette pénate avec ses compagnes, toujours comme si rien n'était. Sur la route, les autres discutaient de cette belle ratée avec quoi? Avec légèreté, et affirmaient que leur décision de mettre l'argent et de judicieuse et comme pour effacer le récit de regret. En son fort intérieur, Delia se disait que ses concitoyens étaient ainsi coiffés d'un égoïsme coriace, incapable d'être eux-mêmes propriétaires de bien. Ils jouèrent pieds et mains afin d'empêcher l'un de leurs de pouvoir le posséder, quitte à apparaître bête en mettant toutes sortes de superstitions en avant ou à faire semblant d'être de gros imbéciles. Un petit prêtre ici, lui-même d'un milieu défavorisé et qui avait accédé à la magistrature suprême de l'État, avait bien voulu tenir un discours auquel elle avait prêté une attention soutenue. Il avait déclaré haut et fort, analphabète, pas bête, et ses propos n'étaient pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Elle avait pris au mot, elle était capable de lire et d'écrire, c'est vrai, mais cela n'enlevait pas rien. Cela alors, elle était capable de lire et d'écrire, c'est vrai, mais cela n'enlevait rien à sa capacité de réfléchir intelligemment, d'avoir un jugement rationnel. L'humain n'était-il pas un animal doué de raison? Elle n'y a jamais concrétisé tout ça. Dieu était parfaitement conscient de cela au moment où il lui jugea bon de lui donner en cadeau cette faramineuse. Il avait fait un choix judicieux. Dieu avait fait quoi? Avec une affection particulière pour les êtres intelligents, ce qui corroborait ce dire qu'il avait créé les hommes à son image. Le Très-Haut avait décidé que la fortune pouvait lui aller comme un don. De quel droit s'acharnerait-elle à lui prouver le contraire? Tant pis pour ceux qui croyaient à des ornettes et mettaient eux-mêmes des boulets et des chaînes à leurs pieds. Elle se voulait libre et chez légère comme le vent. La richesse lui était tombée dans les bras et ceci s'était refermé sur elle-même. Pas question de retourner quoi que ce soit à M. Habib, ni à quiconque d'autre. M. Habib, l'argent qui lui sortait déjà par tous les ports, pourquoi lui permettrait-elle d'être encore plus riche en se condamnant elle-même à la misère? Il y en a qui avaient quoi? Inséré le mot honnêteté dans leur plaidoyer pour la restitution de la somme aussi. Voilà. Elle avait jugé le vocable honnêteté bien trop pompeux, outrageusement luxueux pour faire partie du vocabulaire de la misère, de la malheureuse qu'elle était. En outre, tout un passé de probité ne l'avait pas mené à grand-chose. Et puis, cet argent n'apportait pas non plus à M. Habib, sans quoi il n'aurait pas placé cette caisse dans une l'eau à écouler. Le trésor serait dans son groupe, plus fort au fond de son business. Les propriétaires étaient sûrement ces mafieux de la drogue qui pullulaient dans ce pays. Alors, pourquoi avoir des scrupules se concernant son stratagème pour se débarrasser de la bêtise? Elle était rentrée voir M. Habib effectivement, mais une fois à l'intérieur, elle avait demandé à ce dernier s'il pouvait lui garder sa caisse de harangue, sort jusqu'au lendemain, parce qu'elle devait se rendre à des funérailles et n'aurait pas le temps de s'en occuper dans l'heure. Et ce que le commerçant avait accepté sans problème, Delia étant une bonne cliente et d'une pratique de longue date, il la référa à son responsable d'entrepôt, Clément Montfort. Delia s'était donc faufilée jusqu'à l'arrière-cour, mais au lieu de se diriger vers le dépôt, elle avait ouvert la grande barrière, celle par laquelle arrivait M. Habib chaque jour de sa luxure. 4x4 et s'était précipité sur le trottoir d'enfer d'en face plutôt, où elle trouva un paraplégique du nom de Sévixan. Le fils de ce dernier lui avait fabriqué son fauteuil roulant avec un espace sous son siège où il avait placé un petit coffre qui pouvait contenir les effets personnels de son père. Elle lui fait quoi? Elle lui avait confié sa caisse de harangue sous prétexte que d'autres marchandes du bas de la ville, jalouses de ses succès commerciaux, voulaient lui ravir son bien par méchanceté. Et c'est à la faveur de la nuit, abandonnant plutôt ses deux enfants en bas âge pour quelques heures qu'elle avait affronté un taxi afin de récupérer sa marchandise. Ensuite, elle avait regagné ses pénates en toute discrétion avec une caisse de harangue. Quoi de plus normal, puisqu'elle n'avait fait que ça toute sa vie. Et Gloria s'est félicité de son coup d'audace. Maintenant, tout ce qui lui restait à faire, c'était de quitter cet endroit le plus vite. Les beaux billets verts étaient déjà dans le sac à dos des enfants. Elle les apprêta comme quoi, comme si elle les amenait à l'école. L'aîné, un gamin de 8 ans, maigre comme un clou, avait bien remarqué que son sac faisait lourd, mais Delia lui demanda de ne pas respecter pour une fois et de suivre cette recommandation à la lettre. La cadette, 6 ans de son côté, assez robuste, ne se plaignit pas. Le voisin vit Delia sortir de sa maison pour conduire ses enfants en classe comme tous les matins. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle se dirigeait plutôt vers le port pour embarquer sur le Goéland, le bateau des fleurs rougiers qui l'amènerait très loin d'ici à Jérémy. Arrivée là-bas, elle séjournait un temps dans la ville, puis elle rentrerait en catimini à la capitale et après avoir obtenu 3 passeports, elle s'en irait tout pour toujours d'Haïti. Et puis, elle ferait ainsi un pied de nez à ce ministre de l'Éducation nationale, parlant un français châtié et dont la progéniture poursuivait des études à Paris, mais qui pourtant voulait faire voter une loi pour forcer les enfants du peuple à être instruits dans la langue vernaculaire. Un jour, les autres se rendraient compte que jamais, il n'y a la bourse. Et puis, en conclusion, une revanche sur ceux qui pensaient que l'intelligence était intimement liée à l'instruction. Et puis, adieu, Cité Soleil. Pour elle, le soleil s'était définitivement couché sur cette cité. Et puis, Miami, Floride, novembre 2013, un jour de Saint. C'est pratiquement texte qui mène Margaret Papillon qui se tient dans une nouvelle hein, qui c'est une nouvelle crime royale et c'est Bacara nous sommes du là et c'est un bâton de like avec là n'avait pas vous choupion du soir qu'on est c'est dimanche oui, qui fait moi avec là donc nous quittons avec Basile hein. C'est avec Chris Basile, non, et tout haïtien, une composition.
Tout haïtien,
ah ouais.
L'univers
Margaret Papillon, c'est en fait le président de novembre 1958 Haïti. Donc, les notices de municipalité, c'était Madame Albert Demonde, avec Liguette de Petite, Sibylle, Albert avec un Coralie Agnès. Donc, depuis première fois, nous publions une œuvre qui dirait la marge originale en 1987, qui commençait d'un succès. Et puis, donc, la publier actuellement, vous habitez en Floride, et puis la publier. Sous côté, sous cadet, c'est un monde qui continue de écrivain qui écrit, pas à compter comme les autres qui écrit, par exemple, de l'image écrit qui le mettait en pièce théâtre, il y a tout qui écrit ce qui le mettait sous site internet, il y a un CD texte, par exemple. Et Mamzelle Natacha, c'est une nouvelle qui était contribuée en 1997 sous le Nouveliste. Jeux interdits, le 2 décembre 1990, il était fort radio avec une émission radio. La légende de Kiskeya, il en 2003, il était fait sa sortie encore. Il écrit en. Jésus, au nom du Père et du Fils, au général du Mas, dans l'église en 2009, c'est sous Internet qu'on y fait travail, ça y est, donc la conspiration du temps en contre les cloches de la cathédrale du Cap-Haïtien. Donc, comme dit, il y a un texte qui met en tête la légende de Kiskeya, adaptation de l'atelier, éclosion de Florence, Jean-Louis Dupuis, c'était en octobre 2000, je trouvais ça d'ailleurs. Et puis, donc, il y a Mamzelle Natacha, qui est sa nouvelle, qui était à 97, Terre Sauvage, et nouvelle en 99, toujours dans 2010, il fait 12 étangs de l'usure, et puis les infidèles en 2011. En tout cas, Madame Papillon, chargé de documents dans Jacopé. C'était Chris Basile qui t'a interprété Tout Haïtien. Et Tout Haïtien, c'est une musique à Guy Durosier. Et voir Guy Durosier ensemble avec voir qui est Chris Basile, un petit genre ensemble. Et peut-être pour nous qui génération ça y est, t'as le concert dans deux chances, tous entendez la musique que Guy Durosier toujours Chris Basile. Chris Basile, c'est une zone de son Massachusetts, au milieu de son lieu, on a appelé qu'on a mis ce qu'on chantait dans le jazz qui était un afro-combo, ça fait longtemps, et puis après, il vient chanter dans le volo-volo. Donc, on est. Mais nous passons de Michael Pounon.
Elle s'appelle Michael. Avec mon restant, pour ce très grand travail et mon crime loyal, nous nous devons baraka pour vous, hein, bacala, plutôt c'est ça, nous avons assumé du baril bien nous, et nous sommes bons pour faire travail, hein, et malgré le papier publié, nous avons dit ça, nous avons dit que nous devons baraka. C'est Baraka, mon Dieu, pour un texte que vous avez à l'heure. Et bien, face à tout, bien entendu, mon mouvement est très en français. Nous allons regarder le travail Fred Edson, ma fortune. Et lui, un travail qui sorti probablement. Il travaille, il a dit qu'en créole, il a écrit en français et tout. Donc, bon parti n'a plus pour notre travail de métier de l'Ora. Que le silex, et puis passage ou bien en tout cas mon section la même que le défaga à Jimmy et mouvement 1 donc probablement ça va être un plusieurs mouvement 1 mouvement 2 et puis qui ça et puis mouvement 3 donc si on a quelque chose qui nous donne ce mouvement là on est parti avec mouvement 1 en tout cas et bien voilà mouvement 1 la nuit était partie comment pleurons sans dire au revoir à personne, silence, des bruits de songe, pas même une poussière de mots, les nuages tiennent du vague, un jour de fête, très tôt se levant pour réveiller, le matin sursaut, le vent jouait à cache-cache avec le feuillage, le matin était sombre et frais. Ses cheveux étaient noirs, pas trop longs. Elle avait des yeux doux de songe. Des éclats du matin étranglaient ses seins libres et des gouttelettes de pluie lui caressaient follement le corps. Elle lui met doucement cette fraîcheur du matin, foulant les brindilles mortes et humides. Sous les arbres, de loin elle aperçut des fleurs égorgées de rosée, courant en sens inverse du vent. Le brouillard matinal l'a jeté et s'est jeté dans ses vêtements. Elle continuait à marcher sous les arbres. Et puis elle marchait comme ça. Elle marchait. Elle arriva enfin sous un arbuste où des milliers d'oiseaux chantaient à voix de mer. Elle sentait l'ombre humide qui lui collait au visage. Les nuages tels des vagues. Un jour de fête. Le vent sur les images le matin, il venait plus froid et puis. En mémoire, il ouvrait la mort d'une multitude d'étudiants que les chimères, partisans du président ici, de jeunes casseurs, ils issus de la plupart des quartiers populaires, bien que les chimères avaient assassiné. Elle se souvint de ces hommes drapés de mensonges qui ont fait de sa terre. Ce qu'elle est devenue, elle marchait encore sous les arbres et observait le plus profond silence. Il y avait de la rue, et des maisons, des enfants, des étudiants qui manifestaient avec rage sous la pluie. Elle s'avançait et observait la foule qui s'agitait. Aucune voiture ce jour-là n'osa prendre la rue. Elle s'approcha, elle se mit à chanter. Soudain, des chimères lui tombèrent dessus. L'écho de sa chanson percutait contre les pierres de leur roi, de leur violence. Et puis, elle se débattait tandis que les étudiants morts devenaient de plus en plus nombreux. Des rivières de sang, elle cria, frissonna, la journée faisait ses adieux. Le délabrin, nous va venir avec, ici aussi dans le mouvement 2, avec le mouvement 3, notre travail, Fred Edson, la tortue, c'est dans Silex et Napoli, chapitre qui gagne trois mouvements de la donne. On nous checker encore avec Chris Basile qui a interprété une musique en. Qui s'est interprété Michael. La nuit tombait encore comme une feuille morte sans rien dire à personne. Tel du vague un jour de fête d'horreur. Les nuages diminuaient de pluie sur les squares, sur les courbes des rivières, le vent sifflait très fort. L'eau, au bout du petit matin, nous couvrait toutes les rues. Des morts étaient emportés, des cadavres flottaient, tout n'était que deuil, aucune voiture. Une fois de plus en plus, nous pris contact avec la rue. Et puis, les étudiants manifestèrent, la jeune fille courait toutes les rues. Les chimères manifestaient comme la vie et s'emparèrent d'elle. Elle tomba d'un coup, elle pleura. Les chimères partirent dans un vacarme assourdi. Et dans un vacarme assourdissant pour disperser le manif des étudiants. Elle se releva, elle recommença à chanter plutôt en regardant les cadavres. Les fossoyeurs revinrent, lui tombèrent encore dessus. Elle cria, elle se mêla au reste des cadavres. Dans les rues, les étudiants hurlaient à la mort. Des pierres et des gaz se concentraient à travers les rues pour éteindre la vie. Elle chanta, continua d'avancer, timide, et ce chant plus mûr que les paroles de fou, et ce chant qui faisait mal à la voix, et ce chant qui disait nous pas paix, sac pas chimé, en aller. Ça pas chimé, en aller. Nous pas paix. Ça pas chimé, en aller. Ça pas chimé, en aller. Et c'était une comment quoi? C'était comme une évocation. Là où le ciel se fusionnait avec la mer, la brise soufflait et figeait le temps. L'espoir s'est évanoui dans le trou de la vague d'illusion. Les cadavres s'éparpillèrent pêle-mêle. Les goûts chantaient sa puanteur. L'étudiant, sa frustration, la pute de ses mémoires. Des pieds se fusionnaient avec l'asphalte. La jeune fille chantait de toutes ses forces. Chimère lui tombèrent dessus, plus furieux. Sauvage, l'un d'eux parvint à l'attraper. Son odeur violente lui brûla les narines. Il avait un visage biossade, voilé de cicatrices. Il écrasa ses membres, il brisa ses os. La viola, violenta. Elle vacilla sur ses jambes, cherchant à retrouver son sang-froid. Elle tomba par terre et sentit la fraîcheur du matin l'envahir. Ses compagnons crièrent encore à la mort de l'autre côté de la rue. Son sang s'écoulait sur le sol. Le sauvage la regardait avec des yeux enflés de rage. Le sang coulait à flots. Une fusion de sueur, de seuil de sang, dégoulinait sur sa peau. Enfin, elle ne bougea plus. Des cris de sang, des chairs en lambeaux. En bâtonnel la caille, et c'est chaque dimanche, oui, le vivre, non. Et en travail, ça n'a plus là. Il sortit en silex, en ses frères, et son ma fortune. Qui me donnerait pas le concert, ma radio, qui est sans frère, et son nez. Et non, le silex, ça n'a plus parti, qui est le cœur, le dévague, qui gagnait trois mouvements. Nous sommes le premier mouvement, puis le deuxième, non. Et bien, on va finir sur le troisième. Donc, on pouvait checker encore avec. M'a checké avec Chris Basile, qui a interprété musique ayant peut-être une étudiante de bonjour dans le temps qui est Michael.
La nuit,
La nuit se taisait sans rien dire à personne. Les nuages étaient du vague jour de fête. Dessinaient la face cachée de l'horizon sur l'asphalte. Elle se taisait comme la nuit. Fatiguée de toutes ces violences, de ces gestes d'un amour sot, non consenti, perdu dans un tête-à-queue de fuite. Elle repassait toutes ces images, l'ayant conduit tout un peuple vers la liberté de vivre. Elle parla pour durer avec probablement un enfant dans ses entrailles, dans sa nature. De femmes combat que cacher si elle voulait cacher une chose, elle devrait la montrer. Alors quiconque la cherchera ne la verra pas. Elle aura un enfant de ce vieux humain, un enfant quand même, son tout premier, qu'elle aura, qui la vengera malgré lui, malgré le viol. Un enfant symbole de sa volonté de vivre, comme il faut. Cette nuit, la réunion de la famille, réunion d'hommes politiques, auditeurs et auditrices à l'écoute, les nuages tels le vague un jour de deuil, le silence tache d'huile, se gonflait, s'élargissait dans un rituel de coups de force. La rue s'essoufflait, un répit, pas une chimère, pour faire été. Que se passa-t-il? Et la radio qui commençait à laisser couler les des mots de faire guerre, des mots d'être entendus, et qui disaient long et que tout le monde attendait. Le régime est anéanti, les nuages tels des vagues d'un jour de joie, redisaient l'espoir, et quoi qu'il glissait dans ce mouvement vers la vie, ce mouvement des gens qui accueillaient la nouvelle, comme on accueille la ville, la nouvelle vie. La vraie libre. La radio n'arrêtait pas de parler, bouche folle, oreille prête à tout. Qu'y avait-il d'autre? Les journalistes, peut-être pourraient le savoir, d'autres mesures pour le renouvellement de la vie. Qu'en était-il? Tous les enfants conçus d'un viol durant la crise et nous 300 jours avant ce événement seraient passibles de mort. Sujets à la mort, telle une vague muette à la tombée du jour, le sang de la jeune fille s'éteignit dans sa gorge, et s'en alla vers la mer, ses pas effleurant à peine la grève. Elle se coucha frissonnante sur un lambeau d'écume, nul ne remarqua son absence, la radio continuait de tourmenter l'espace, et les mots bouillonnaient dans les quand tout à coup une voix est venue de nulle part, s'éleva dans un silence d'aube et dit alors, doucement s'étendit sur la vie de la clarté des commencements. Et bien voilà, c'était un texte de Blanana, un silex, le travail à Fred la tortue, alors Fred Edson la fortune, monsieur fait à 31 juillet 82 ans en Savou, monsieur c'est un poète qui traite bien plus le talent d'une génération d'hier, pour monsieur traduit en italien et par un milieu de manita, monsieur écrit en créole, et en français, et en anglais, et puis monsieur actuellement il gagne, pratiquement fait partie de mon Jack Caro et le travail ensemble. Donc c'était Silex, il te prend travail ça, comme je t'ai écrit, en trois mouvements, qui est le thème des vagues. Et bien bon, c'est sous notre temps, on avait dit oui, et il est arrivé du palais, mais avant de faire ça, on nous dit, on nous demandait, Chris Basile, qui a interprété Michael, et comme Michael, c'est mon musique tout, en plus musique, c'est interprété, mais il pense à Guy Josie, marqué musique ça. Et entre autres, il dit oui, entre Chris Basile, monsieur, son émotionnaire, donc il m'a fait cette peut-être génération, mais on peut nous raconter de monsieur, c'est de comme je vais, on dit à ce qu'il était allé.
Due to COVID-19, WMFO DJs are pre-recording their shows for broadcast on air. We can still accept phone calls, but the phone line is in voicemail mode. Call 855-915-9636 and be sure to leave the DJ's name in the voicemail so we can forward it to the correct person. The following program was recorded earlier. Enjoy.